Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Voici le deuxième volet d'une série de quatre émissions sur les explorations de René Caillé à Tombouctou de 1827 à 1828. René Caillé n'est pas encore arrivé sous les murailles de la cité légendaire. La maladie et un certain nombre de difficultés se sont dressées sur son chemin. Écoutons sans plus attendre le récit de son périple par Alain Kerjean dans l'émission Terre des Merveilles de Marie-Hélène Fraissé.
Terre des Merveilles. René Caillé, voyage à Tombouctou, 1827-1828.
Je suis né en 1800 à Mauzet, département des Deux-Sèvres, de parents pauvres. J'eus le malheur de les perdre dans mon enfance. Je n'ai reçu d'autre éducation que celle que l'on donnait à l'école gratuite de mon village. Dès que je sus lire et écrire, on me fit apprendre un métier dont je me dégoûtais bientôt, grâce à la lecture des voyages qui occupaient tous mes moments de loisir. L'histoire de Robinson, surtout, enflammait ma jeune tête. Je brûlais d'avoir comme lui des aventures. Déjà même, je sentais naître dans mon cœur l'ambition de me signaler par quelque découverte importante.
Se rendre à Tombouctou, dans l'intérieur de l'Afrique, Tombouctou, capitale du Soudan, dont aucun Européen n'est jamais revenu vivant. Telle est l'obsession de René Caillé qui va bientôt devenir un véritable projet. Un projet incroyable pour l'époque et aussi pour un petit provincial comme lui, orphelin et pauvre, et qui n'a jamais fait que des métiers de fortune. Aller à Tombouctou, à pied, tout seul, avec des guides recrutés sur place, en suivant des caravanes à travers ce qui est aujourd'hui la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est-à-dire le pays Peul, Mandingue et Bambara. Après avoir traversé le Fouta-Djallon, cette magnifique région montagneuse et verte où il a déjà connu un certain nombre d'aventures, René Caillé arrive à Cancan, une petite ville marché où s'échangent l'ambre, le sel et l'or.
C'est à Cancan que l'explorateur découvre que son guide, Ibrahim, qui jusque-là l'avait bien aidé, bien assisté, volait un petit peu ses bagages, ses cadeaux. Et Caillé n'hésite pas à dénoncer devant le chef de Cancan ce vol. Il ne risque pas, par son souci d'équité, de justice, lui qui devait souhaiter être le plus discret possible, il n'hésite pas de mettre ça sur la place publique. Et le chef de Cancan prend parti pour lui et condamne le guide, condamne Ibrahim. Et on lui propose à Caillé d'être accompagné par un autre guide et par un petit groupe de marchands qui se rendent en caravane vers la région de l'actuel nord-ouest de la Côte d'Ivoire.
Thank you.
La saison s'avançait. Nous étions au milieu de juillet, et en août, il est presque impossible de voyager, attendu que le pays est entièrement couvert par les inondations. J'étais dans le plus grand embarras lorsqu'enfin je trouvais une occasion pour Samba Tikila. Mon nouveau guide, qui se nommait Arafamba, avait une grande réputation de sainteté. Il paraissait très doux. Notre départ fut fixé au 16 juillet.
C'était pas du tout l'esprit de conquête coloniale qui le motivait. C'était un routard avant la lettre, c'était un aventurier qui voulait gagner la gloire par un exploit géographique, un exploit d'exploration. Mais il savait, il avait connaissance du prix de 10 000 francs offert à la Société de Géographie, à celui qui allait rapporter des informations, et en particulier des informations sur les possibilités d'échanges commerciaux avec l'Afrique. C'est davantage pour mieux coller aux règles de cette espèce de concours lancé par la Société de Géographie qu'il a mentionné telle ou telle possibilité d'exploitation ou d'échanges commerciaux à tel ou tel moment de son voyage. Je crois que c'est un intérêt un peu imposé par la Société de Géographie de Paris. Ce n'était pas vraiment sa motivation profonde. Et les Africains eux-mêmes considèrent que Caillé n'est pas le conquérant, mais est davantage celui qui leur permet, par l'espèce de photographie de leur pays, du pays de leurs ancêtres, 60 ans avant la colonie, ce témoignage leur permet de reconstituer le fil de leur propre histoire.
Les garçons mandingues sont circoncis à l'âge de 15 à 20 ans. Les filles subissent l'excision quand elles sont nubiles. Souvent, on la retarde jusqu'au moment où elles sont promises en mariage. J'ai même vu une femme mariée, ayant déjà eu un enfant, qui s'était soumise à cette opération, toujours faite par des femmes. On la pratique sur plusieurs à la fois. Dès ce moment, elles deviennent pour quelque temps incapables de travailler. Elles sont soignées par leur mère, qui lave la plaie plusieurs fois par jour avec un caustique indigène dont elles connaissent l'usage. Les femmes du voisinage vont chercher l'eau et le bois dont elles ont besoin. Le jour de la circoncision est un jour de réjouissance. Dès le lendemain et les jours suivants, les filles circoncises vont, accompagnées d'une vieille femme, se promener dans le village, s'arrêtant à chaque porte et demandant assistance. C'est la vieille qui porte la parole. Les jeunes ne sortent jamais sans être armés d'un roseau qu'elles tiennent de la main gauche. Elles portent aussi dans cette occasion un grand bonnet d'homme sur la tête, dont la pointe est soutenue par un morceau de bois flexible mis en dedans pour la faire tenir debout. Avec ces coiffures, ces filles paraissent grandes comme des géants. J'en ai vu qui, à la place d'un roseau, tenaient une flèche en fer, symbole de la circoncision. Les gens à qui on a demandé l'hospitalité pour les nouvelles circoncises s'empressent de faire, chacun à son tour, un grand dîner ou souper dans lequel on met du sel et qu'on leur envoie. Tous les amis et voisins suivent, si cela leur plaît, cet exemple. Mais ceux qui sont fiancés ne peuvent s'en dispenser. Et ils envoient des dîners jusqu'à l'entier rétablissement des malades, ce qui dure communément environ 6 semaines. Le pays de Bouré est couvert de petites montagnes. Il s'y trouve beaucoup de mines d'or très abondantes. Les naturels qui journellement les exploitent n'en connaissent pas la richesse. Des esclaves sont continuellement occupés à tirer les terres. Ils emploient à cet usage des paniers faits avec des branches d'arbres. Les femmes lavent cette terre dans des calebasses. Elles mettent beaucoup d'eau et après l'avoir bien remuée, elles la transvasent. Ainsi, plusieurs fois lavée, Les morceaux d'or se déposent au fond de la calebasse et sont ramassés précieusement. Cet or est fondu, mis en boucle ou en lingots. On concevra que par ce procédé imparfait, il reste encore une bonne quantité d'or dans les terres lavées. Mais ils ne connaissent pas les moyens de l'en extraire. Quoique le sol de Bourré soit très fertile, il n'y a aucune espèce de culture. Les habitants achètent tout de leurs voisins. Riz, mil, pistaches, piments, etc. Tout se trafique avec de l'or. Bourré fait beaucoup de commerce avec Bamako, qui se trouve à 6 ou 8 jours de distance en descendant le Dioliba, le Niger. Les Maures portent dans ce pays une grande quantité de sel et d'autres marchandises qu'ils échangent. L'or de Bourré se répand dans tout l'intérieur, dans les établissements français et anglais de la côte.
Il y avait là, depuis très longtemps, des royaumes puissants, des courants d'échange très complexes, très organisés. Caillé le découvre aussi, il le fait découvrir à l'Europe. En effet, il est très étonné de voir certains marchés rassembler des populations qui viennent souvent de fort loin, qui rassemblent des gens de races différentes, qui... permettent d'échanger des produits très divers. Ça va de la noix de cola au sel, à l'or, aux produits manufacturés d'Europe. On découvre avec lui toute une activité insoupçonnée. Et par là, on découvre que l'histoire de l'Afrique n'a sûrement pas commencé à la fin du XIXe siècle par la présence coloniale. Il parle de l'esclavage, qui là non plus n'a pas commencé avec la conquête européenne, loin de là. L'esclavage fait vraiment partie de la tradition et de l'histoire africaine. Certes, les Européens y ont donné une dimension extraordinaire et dramatique, bien sûr, pour l'Afrique. Mais dans la mentalité, c'est tout à fait pratiqué depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il parle souvent, en effet, notamment dans cette partie guinéenne, des villages d'esclaves qui se trouvaient à côté du village de la race dominante. Il parle des Bambara, qui étaient les esclaves.
Le 18 juillet, nous traversâmes le Lin dans une pirogue si incommode que nous pensâmes renverser. Elle était faite d'un tronc d'arbre tortueux, très étroite et faisant haut. Le moindre mouvement la faisait tellement incliner que l'eau entrait à bord. Le Lin est un gros ruisseau venant du sud. Son courant est très rapide, il va se perdre dans le Niger. Nous fîmes encore un mille dans la même direction en traversant une belle plaine bien cultivée. Je voyais beaucoup d'ouvriers répandus dans la campagne qui piochaient la terre et la remuaient aussi bien que nos vignerons en France. Ce ne sont plus les nègres esclaves des mandingues qui ne font que retourner la superficie du sol à 2 ou 3 pouces pour détruire les herbes. Ce sont de vrais laboureurs qui travaillent pour avoir une belle et abondante récolte. Je les ai vus récolter le foignet. Ils se servent d'une faucille pour le couper et ont l'habitude dans bien des endroits de le laisser dans la campagne exposé à la pluie. Ils mettent en terre des piquets sur 2 rangs et placent artistement entre eux leurs graminées. Ainsi arrangées, elles ressemblent à une palissade. Le dessus est couvert de paille qui empêche la pluie de pénétrer. À mesure qu'ils ont besoin de foignées, ils viennent en prendre et jamais personne ne se permet de voler ces espèces de magasins. J'ai vu les nègres labourer le champ qui venait d'être récolté tout récemment pour l'ensemencer de nouveau d'un autre grain. Les femmes étaient occupées à arracher les herbes et à sarcler les beaux champs de riz dont la campagne est couverte. Ce peuple est industrieux. Il ne voyage pas, mais il s'adonne aux travaux des champs. Et je fus étonné de trouver dans l'intérieur de l'Afrique l'agriculture à un tel degré d'avancement. Leurs champs sont aussi bien soignés que les nôtres. Soit en sillon, soit à plat, suivant que la position du sol le permet par rapport à l'inondation.
Chemin faisant, Caillé a aussi l'occasion de goûter à la gastronomie bambara.
Il avait goûté une sauce au gombo et il a eu l'étonnement, la surprise de s'apercevoir que dans cette sauce, il y avait quelques petites pattes de souris. Il a reconnu par là qu'on avait utilisé des souris pour préparer ce plat et on lui a expliqué très franchement la recette. On dépèce à peine des souris, on enlève à peine le poil, on laisse macérer tout ça, on laisse faisander tout ça 7 jours dans le coin de... dans une partie de la case pour en faire une sauce un petit peu après. Je crois que d'ailleurs que c'est toujours une recette utilisée aujourd'hui en Afrique.
Les épisodes ne vont malheureusement pas être aussi anodins et presque touristiques. Il ne faut pas oublier que René Caillé se trouve tout seul à l'intérieur de l'Afrique, à pied, avec des guides qu'il connaît à peine, et que tout ce temps-là, il se fait passer pour musulman. Donc il est sans arrêt obligé de jouer la comédie. Il y a une très grande tension et en plus, bientôt, il va se trouver malade. À la fatigue va s'ajouter une blessure du pied qu'il fait beaucoup souffrir. Et il arrive très mal en point et se sentant très isolé, très menacé à Tiémé, qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Il arrive donc à Tiémé, qui est un village aujourd'hui modernisé, selon le vœu de l'administration ivoirienne, des maisons en ciment et en tôle, mais qui a gardé les mêmes traditions, la même religiosité en particulier, que ce qui a été décrit par le voyageur de 1827. Bien des coutumes persistent. Par exemple, celle qui consiste, pour guérir un malade, à écrire les versets du Coran sur une planchette de bois. De laver cette planchette, de recueillir l'eau mélangée à l'encre, et de faire absorber cela, ce breuvage, au malade. Alors René Caillé reçoit ce médicament. Mais il profite de l'inattention de ses hôtes pour jeter discrètement cette eau.
Le 4 août, le chef du village va me voir et me fit cadeau de quelques noix de cola et de 4 ignames pour mon souper. La caravane se préparait à partir pour Géné et mon pied n'était pas encore guéri. Les pluies étaient continuelles. J'avais à traverser un pays entrecoupé de rivières, de gros ruisseaux débordés dans cette saison et de marais inondés qui rendaient la marche pénible et dangereuse. Je réfléchis mûrement au parti que j'avais à prendre. Je pensais qu'ayant une plaie au pied qui ne ferait qu'empirer, je risquais de rester en route ou de périr dans les marais. Car les Bambara, peuple idolâtre, ne me garderaient pas volontiers chez eux et probablement me dévaliseraient. Que par conséquent, il serait plus sage de passer le mois d'août à Timé et même jusqu'à mon entière guérison. Je me décidai donc à laisser partir la caravane sans moi. J'en prévins mon hôte, à qui je promis de lui faire cadeau d'une belle étoffe de couleur et d'une paire de ciseaux, ce qui parut assez lui convenir. On m'apprit qu'il y avait marché une fois la semaine dans le village et que je pourrais y acheter des provisions pour subvenir à ma nourriture. Les Bambara de cette partie de l'Afrique qu'il fallait traverser pour arriver à Géné sont pauvres et malheureux. Ils ne font aucun commerce hors de leur pays. N'étant pas réunis à l'étendard du prophète, ils ne peuvent voyager sans risquer d'être pris et faits esclaves. Ils sont en général peu industrieux. Leurs champs sont mal cultivés et leurs villages d'une malpropreté dégoûtante. Ils se nourrissent très mal, mangent de toute espèce d'animaux, chiens, chats, rats, souris, serpents et lézards. Rien n'échappe à leur voracité. Ils cultivent un peu de coton qu'ils échangent avec les mandingues contre du sel. J'ai vu dans quelques-uns de leurs villages des métiers de tisserands, mais ils ne font que très peu de toile. À peine en ont-ils pour se vêtir. Ils ont autant de femmes que leurs moyens leur permettent d'en nourrir. Ils ont peu d'esclaves, vont presque nus et marchent toujours armés d'arcs et de flèches. Le 14 août, le chef vint me voir, me pria de lui écrire une amulette, et sans doute pour que le gris-gris eût plus de vertu, me fit un cadeau d'un cabri. Le gris-gris qu'il me demandait était pour le préserver des maladies en général. Je lui promis de mettre tout mon savoir à le satisfaire. Il eût été imprudent de le refuser, car malgré la précaution que j'avais prise de lui dire que j'étais parti de mon pays extrêmement jeune, il s'imaginait que je parlais et écrivais très bien l'arabe.
Pendant le séjour à Thiémé, la situation de René Caillé va empirer encore. Il est tout seul au milieu d'une population africaine, musulmane. Il doit subir l'hostilité, la suspicion, car on ne croit pas vraiment à son histoire, cette histoire selon laquelle il serait un jeune musulman né à Alexandrie, enlevé par des Blancs alors qu'il était tout petit et qui tente par ce voyage qui tente de rejoindre son pays d'origine. La blessure de son pied le fait de plus en plus souffrir. Le mois d'août 1827 est très orageux. Il vit terré dans une case malsaine, humide. Il va même se demander à un moment s'il a encore une chance de s'en sortir.
Je tâchais de prendre des renseignements sur la distance de Djéné à Tombouctou. Personne ne put m'en donner de certain. Les habitants la croient immense. Leur voyage n'ayant pour objet que le commerce, ils ne s'occupent guère de géographie. Souvent même, ils ignorent le nom des villages qu'ils traversent. Les nègres de cette partie de l'Afrique ne sont pas hospitaliers. Ils ne sont généreux qu'entre eux et ne font rien pour les étrangers que par intérêt. Ce que j'attribue aux nombreuses caravanes qui continuellement traversent leur pays. S'ils étaient obligés de les recevoir et de les nourrir, ils seraient bientôt ruinés. Vers la fin d'octobre, les pluies cessèrent tout à fait. Les chaleurs devinrent très fortes, les nuits froides. Je remarquais que tous les nègres sont extrêmement sujets à s'enrhumer. J'attribuais ce genre d'indisposition à l'habitude qu'ils ont d'être toujours couchés près d'un grand feu et de sortir ensuite vêtu très légèrement. Mon hôte Baba, qui le premier mois de mon séjour avait eu pour moi des égards sans doute parce que je lui faisais de jolis cadeaux, devenait maussade, et il mendiait sans cesse, et me faisait apercevoir sa mauvaise humeur lorsque j'étais longtemps sans lui rien donner. D'un autre côté, j'étais souvent tourmenté par les femmes, dont j'excitais la curiosité. Elles venaient en foule me demander des grains de verre. Je devins l'objet de leur amusement. Mes gestes et mes paroles excitaient leur rire moqueur. Elle courait dans tout le village répéter en me contrefaisant ce que j'avais dit. Caquetage qui attirait une foule plus nombreuse dans la case. Enfin, du matin au soir, elles étaient à ma porte, et quand je sortais, j'étais suivi par cette troupe qui me criait dans son langage « L'arabe n'est pas bon, il ne donne rien à personne ». Vers le 10 novembre, la plaie de mon pied était presque fermée. J'avais l'espoir de profiter de la première occasion et de me mettre en route pour Djenné. Mais, hélas, à cette même époque, de violentes douleurs dans la mâchoire m'apprirent que j'étais atteint du scorbut. Affreuse maladie que j'éprouvais dans toute son horreur. Mon palais fut entièrement dépouillé. Une partie des os se détachèrent et tombèrent. Mes dents semblaient ne plus tenir dans leurs alvéoles. Mes souffrances étaient affreuses. Je craignis que mon cerveau ne fût attaqué par la force des douleurs que je ressentais dans le crâne. Je fus plus de 15 jours sans trouver un instant de sommeil. Pour mettre le comble à mes maux, la plaie de mon pied se rouvrit et je voyais s'évanouir tout espoir de partir. Que l'on s'imagine ma situation. Seul dans l'intérieur d'un pays sauvage, couché sur la terre humide, n'ayant d'autre oreiller que le sac de cuir qui contenait mon bagage, sans médicaments, sans personne pour me soigner que la bonne vieille mère de Baba qui deux fois par jour m'apportait un peu d'eau de riz qu'elle me forçait à boire, car je ne pouvais rien manger. Je devins bientôt un véritable squelette. Enfin, j'étais dans un état si cruel que je finis par inspirer de la pitié même à ceux qui étaient le moins disposés à me plaindre.
C'est une véritable passion au sens chrétien du terme, comme si inconsciemment il avait besoin de souffrir le martyre pour mériter la gloire, pour mériter le succès et la découverte de la ville mythique. Et il souffre absolument toutes les maladies d'abord. Je crois qu'il a cumulé pendant ce voyage qui dure un an et demi toutes les maladies possibles. Tout ce qu'on peut attraper dans ces régions, je crois qu'il a été atteint, et ce qui explique qu'il est mort seulement 10 ans après son retour en Europe, alors qu'il était âgé d'à peine 40 ans. Il souffre aussi la persécution des gens mal intentionnés. Il rencontre des amis, il a des signes d'amitié fantastiques, par exemple dans ce village de Thimé où nous sommes, où il est soigné par une vieille femme comme un fils. Et en 5 mois de soins attentifs, avec la médecine traditionnelle, avec les plantes, il arrive à se remettre sur pied. En revanche, il a été souvent persécuté, il a subi les vexations, les attaques de gens qui n'acceptaient pas la différence, et Caillé en a beaucoup souffert, car il était complètement vulnérable. Il était le misérable, encore plus misérable que les gens qu'il venait visiter.
René Caillé voyage à Tombouctou, 1827-1828. La lecture était de Jacques Franz et le mixage d'Alain Nedelec.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 avril 1984. Elle est réécoutable en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.